Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, vous êtes bel et bien à l'écoute de Radio Vatican. Dans un télégramme, le pape prie pour les victimes du grave accident survenu à la base du super pétrolier de Matanzas à Cuba. Le bilan faisait état d'au moins un mort, plus de 120 blessés et au moins 16 disparus. Le cardinal slovaque Joseph Tomko est décédé lundi 8 août à l'âge de 98 ans dans son appartement à Rome. Nous en parlerons avant de nous rendre en République démocratique du Congo, où deux paroisses du diocèse de Kikwit, dans le sud-ouest du pays, ont été attaquées par des bandits à mains armées dans la nuit de samedi à dimanche. L'attaque à la paroisse Saint-Murumba a coûté la vie au curé, l'abbé Godefroy Tambélé. L'actualité sociopolitique en Afrique nous conduira notamment au Tchad, où Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, a signé lundi au Qatar un accord avec une quarantaine de groupes rebelles destinés à lancer un dialogue national le 20 août prochain à N'Djamena, la capitale tchadienne. Amis auditeurs, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de notre programme.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
Le Saint-Père a su de près les nouvelles du malheureux accident qui a provoqué un incendie et plusieurs explosions sur la base du super pétrolier de Matanzas à Cuba, faisant au moins un mort et de nombreux blessés et disparus. Peut-on lire dans ce communiqué adressé au nom du pape François par le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, au président de la conférence épiscopale cubaine, Mgr Emilio Aranguren Echeverria, évêque de Holguín. Le souverain pontife assure également le peuple cubain et toutes les familles des personnes touchées de sa proximité spirituelle et prie le Seigneur de leur donner la force en ce moment de douleur et de soutenir les opérations de lutte contre l'incendie et celles de recherche. Il leur transmet la réconfortante bénédiction apostolique comme gage d'espérance dans le Christ ressuscité. Le cardinal slovaque Joseph Tomko est décédé lundi 8 août à l'âge de 98 ans dans son appartement à Rome. Il était soigné par les sœurs de la charité de Saint-Vincent de Paul, admis auparavant au centre hospitalier Policlinico Gemelli le 25 juillet dernier en raison d'une blessure aux vertèbres cervicales. Il avait reçu la visite du cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin. À l'annonce du décès du cardinal, la conférence épiscopale slovaque a invité les fidèles à prier pour l'âme du défunt. Le cardinal slovaque, le plus âgé des cardinaux, a été préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples et président du comité pontifical pour les congrès eucharistiques. Avec le décès du cardinal Joseph Tomko, le collège des cardinaux se compose de 206 cardinaux, dont 116 électeurs et 90 non-électeurs. En République démocratique du Congo, deux paroisses du diocèse de Kikwit dans le sud-ouest du pays ont été visitées par des bandits à mains armées dans la nuit de samedi à dimanche. Il s'agit des paroisses Saint-Mukasa et Saint-Murumba. À Saint-Mukasa, ils ont emporté des objets sacrés, tandis qu'à Saint-Murumba, ils ont réussi à ligoter le vicaire. Ils ont ensuite tiré à balles réelles sur le curé, l'abbé Godefroy Pembele, qui a tout de suite perdu connaissance. Évacué d'urgence à Kinshasa, le prêtre a succombé des suites de ses blessures dans la matinée de dimanche. Dans un bref communiqué nécrologique, l'évêque de Kikwit, Mgr Timothée Bodika, a annoncé la mort de son prêtre et a recommandé son âme aux prières des fidèles. Et nous restons en République démocratique du Congo pour parler cette fois avec notre correspondant de la série de profanation d'église dans le diocèse de Mbuji-Mayi.
Au total, quatre églises paroissiales du diocèse de Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental ont été profanées, vandalisées, voire incendiées par des individus non encore identifiés. L'église de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Kakuna Kambuya Charles a été brûlée la nuit du dimanche 31 juillet au 1er août et l'église de la paroisse Saint-Nicodème de Bakwachibouyi dans la nuit du 3 au 4 août. Dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 août, c'est l'église Saint-David dans la commune de Dioulou de la ville de Mbuji-Mayi qui a été profanée. Auparavant, l'église de la paroisse Saint-Amand en Ngandajika dans la province politico-administrative de la Lomami a été l'objet de vol d'objets sacrés, notamment le tabernacle contenant les hosties, le crucifix de l'autel, les chasubles et tôt les aubes, sans oublier l'encensoir et l'ostensoir. L'évêque de Mbujimayi, Mgr Emmanuel Bernard Kassanda, a décidé de fermer momentanément cette église profanée. Des éléments de la police nationale ont été déployés sur place. Les enquêtes sont en cours. Mgr Emmanuel Bernard Kassanda avait déjà lancé des appels et exhortations, mais la pratique ne s'est pas arrêtée. Depuis 2021, bien d'autres églises des diocèses de Mbujimayi et de Cabinda ont été profanées. De même, dans les diocèses de Kisantu, dans la province du Congo central, d'Idiofa dans les provinces du Kwilu et du Kasai, Jean-Baptiste Malenge Kalunzu pour Radio Vatican.
Dans l'actualité sociopolitique africaine, le Kenya a finalisé lundi les derniers préparatifs à la veille des élections, dont les principaux opposants sont le vice-président sortant William Ruto et Raila Odinga, un opposant désormais soutenu par le parti au pouvoir. Au total, 22,1 millions d'électeurs doivent voter 6 fois mardi pour choisir leur président, mais aussi leur parlementaire, gouverneur et quelques 1500 élus locaux. Au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, président du conseil militaire de transition, a signé lundi au Qatar un accord avec une quarantaine de groupes rebelles destinés à lancer un dialogue national le 20 août prochain à N'Djamena. Le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, l'un des principaux groupes rebelles, n'a pas encore signé cet accord malgré les espoirs des médiateurs à Doha qui ont cherché à le convaincre jusqu'à la dernière minute. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, cet arrangement, qui prévoit notamment un cessez-le-feu général entre les autorités et les groupes signataires, est un moment clé pour le peuple tchadien. Au moins 6 migrants sont morts près des côtes algériennes après le naufrage de leur embarcation lundi, tandis que 6 autres ont été secourus et d'autres sont portés disparus, a rapporté une télévision locale. Des opérations de secours se poursuivaient pour retrouver les personnes disparues, selon des images diffusées par le même média. L'actualité sociopolitique africaine, c'est aussi le Mali, où au moins 5 policiers ont été tués dimanche dans une attaque dans le sud-ouest du pays et 3 autres sont portés disparus, a annoncé la police alors que l'armée annonçait une autre attaque djihadiste dans le nord. La Côte d'Ivoire a célébré dimanche 7 août le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance, une commémoration placée sous le sceau de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Dans son message à la nation prononcé la veille, le président Alassane Ouattara a lancé un appel à la paix et à la réconciliation à tous les Ivoiriens et à tous les habitants de ce pays. Le président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, Mgr Ignace Bessi Dogbo, salue le contenu de ce message et exhorte à parvenir à une véritable réconciliation des Ivoiriens. Il se réjouit tout d'abord des 62 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire.
62 ans d'indépendance, c'est une réalité qui nous propulse en avant parce qu'on a passé les 50 ans. Et donc, dans la vie d'un homme, quand on aborde les 50 ans, c'est un signe de grande maturité, d'intériorisation, d'intériorité. Il faut avancer au large. Dans 50 ans, 60 ans dans l'histoire d'un pays, ce n'est rien. Nous sommes encore une jeune nation indépendante, si nous parlons d'indépendance. Et donc, nous avons tout l'avenir devant nous. Nous avons à construire notre indépendance de manière véritable et durable.
Monseigneur, l'heure est à la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est dans ce sens qu'a été célébré dimanche le 62e anniversaire d'indépendance. Quelle lecture faites-vous du message du président Alassane Ouattara à l'occasion de cette commémoration placée sous le sceau de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale?
Nous sommes très heureux d'un tel message parce que le message m'a semblé vraiment très, très positif. Est très paisible. La réconciliation, pour nous, a toujours été le maître mot. Parce qu'en 2011, lorsque la crise a explosé et en même temps, j'allais dire, s'est achevée, entre guillemets, le mot réconciliation est sorti. Et pour moi, c'est fondamental de parler ouvertement de réconciliation. Et si cette réconciliation est faite de manière sérieuse, profonde et sincère, et Dieu merci, un ministre de la réconciliation a été nommé avec un ministère de la réconciliation. Je pense que c'est une volonté ferme dans la réconciliation de manière véritable, de manière sincère. Et je crois que c'est très important pour notre pays. C'est fondamental.
Pensez-vous que cette réconciliation est réelle?
Oui, je pense que le processus est engagé parce que la réconciliation, ce n'est pas donné. La réconciliation, c'est un processus difficile. Et quand on voit l'ancien chef d'État qui était donc à La Haye, qui est rentré, d'autres à qui des passeports ont été donnés, la réconciliation est en marche. Mais il faut la poser sur des bases solides. Il faut mettre tous les atouts pour que la réconciliation réussisse. Parce qu'elle peut échouer s'il n'y a pas la bonne volonté, s'il y a des calculs d'intérêt, dépassent les calculs d'intérêt sur le plan national.
Alors, dans son message, Monseigneur, le président Alassane Ouattara est revenu sur la question de la hausse des prix des denrées alimentaires dans le pays. Là-dessus, quel est votre commentaire?
Sous tous les régimes, il y a eu des hausses. On a vu des gens manifester. Ça a toujours existé. Mais c'est vrai qu'à une période, cela peut être plus criant qu'à une autre. Et donc, nous sommes en face, hein, ces derniers temps, cette hausse des prix qui vraiment laisse la classe sociale moyenne peu aux abois. Parce que tout augmente et de manière vertigineuse. Mais je pense que, comme l'État fait, comme le chef de l'État, le président de la République l'a dit, des mesures sont en train d'être prises pour que les effets sur la population, particulièrement la population la plus vulnérable, que les effets soient atténués. Je crois qu'on peut leur faire confiance au gouvernement pour ce travail, pour que vraiment la vie sociale soit paisible et que chacun, le bien commun, soit respecté pour tous.
Le président Alassane Ouattara a fait cas de la grâce présidentielle accordée à son prédécesseur Laurent Gbagbo, de la libération accordée à certains militaires qui ont été arrêtés lors de la crise post-électorale en 2011.
Nous rendons grâce à Dieu pour cela et nous encourageons à continuer dans ce sens que ces militaires aient été libérés. Je pense qu'il faut continuer à poursuivre l'effort, rassembler vraiment tout le monde et que chacun, dans un esprit dépouillé de toute vengeance, participe à la vie du pays. Le Seigneur, par nos prières, nous donne la grâce de mener à bien ce processus de réconciliation pour un pays pacifié, un pays qui continue de poursuivre le processus de développement économique, mais aussi le processus de développement politique et le processus de développement social, que toute la société ivoirienne bénéficie des bienfaits de la réconciliation et de tout ce qui se passe maintenant.
Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque métropolitain de Korogo et président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire.
Vaccin pour tous.
Et nous restons en Côte d'Ivoire pour parler cette fois de santé. Notre campagne Vaccin pour tous se poursuit et le père François d'Assise Dibincho, l'aumônier diocésain de la pastorale de la santé et de la lutte contre le VIH-Sida de l'archidiocèse d'Abidjan, nous parle justement de la contribution de l'Église en Côte d'Ivoire dans la campagne de sensibilisation des populations à se faire vacciner contre la COVID-19.
L'Église de Côte d'Ivoire s'est appropriée les messages de sensibilisation de l'État depuis le début de la maladie. Et ce, au lendemain de l'invitation du pape François qui a appelé à rendre disponible la vaccination dans les pays pauvres en vue de préserver la population. Ainsi, on a pu constater que les diocèses de Côte d'Ivoire ont souscrit à cœur ouvert à toutes les formes d'information et de formation pour amener les fidèles catholiques au respect des consignes des autorités sanitaires. Les évêques ont encouragé les pasteurs à assister et à participer à des ateliers de formation, d'information, être formés afin de bien informer leurs fidèles. Au niveau de la pastorale de la santé, comme dans les autres paroisses, en plus de véhiculer les informations et les consignes dans les associations et mouvements regroupant les laïcs, nous avons accepté de donner l'exemple en nous présentant au lieu de vaccination pour recevoir le vaccin contre le COVID-19.
Le père François d'Assise Dibi Nsho, l'aumônier diocésain de la pastorale de la santé et de la lutte contre le VIH-Sida de l'archidiocèse d'Abidjan, dans des propos recueillis par Marcel Ariston-Blay.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition qui vous a été présentée par Françoise Nyamia. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.